Astro. Porra.
Bienvenue au podcast de lutte entre deux chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, DJ Holiday.
Oh yes sir!
Montréal, êtes-vous prêts? C'est même pas ce show-là qu'on fait.
C'est pas grave, c'est quand même ça commémore Montréal pareil. Le beau chandail Star Series 97 Gang Rules, procuré au Chamber. Le même qu'Alfredo. Sauf que moi, il fait pas mal moins bien qu'Alfredo.
C'est vrai. C'est vrai que je retrouve la photo d'Alfredo qu'il porte. C'est assez drôle quand il l'a envoyé dans notre groupe chat.
Oui.
j'ai ri longtemps.
Beau bonhomme, par exemple.
Ah, il est mystérieux, hein, c'est ça l'affaire.
Il est mystérieux, puis il a des beaux cheveux, poivre et sel.
Ça, c'est vrai. Évidemment, on fait le tour des événements payants à la carte de la WWE, qui sont venus à Montréal dans les dernières années. On avait fait Survivor Series 97, justement, avec Alfredo, en 2022. On a fait No Way Out. Qu'est-ce qu'il y a?
Je te l'ai dit la dernière fois, ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Puis
non,
j'ai raison.
C'est pas 2 ans. T'as-tu raison?
Oui, j'avais raison. J'ai checké la dernière fois, puis on a fait ça en fin 2020.
Fin? Non.
Oui.
Pas vrai?
Oui.
OK. Parfait. Désolé. Bon, ben. On l'a fait pareil.
Désolé de rain on your parade.
C'est vrai, hein? On a fait No Way Out 2003, le show, les débuts de Sylvain Grenier comme arbitre à Montréal. Ben, les débuts de Sylvain Grenier tout court à Montréal avec Rock Hogan 2 aussi, et le retour de Stone Cold. Et on a fait Elimination Chamber 2023, où ce que TJ était live à Montréal. Donc, et là, on est rendu au dernier qu'il y a eu, et c'est Breaking Point.
Déjà fini.
2009, oui. Pendant que ma caméra fait « Wouhou! »
C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, elle aussi est en fin de périple de Montréal.
Fait que Breaking Point 2009, mon cher TJ, on était présents, mais pas assis un à côté de l'autre.
Non, en effet, j'étais tout seul de mon bord, tout vraiment tout seul. Mais des fois, c'est le fun d'être tout seul dans un show comme ça. Tu peux te concentrer sur le spectacle, puis rien d'autre.
Pourquoi on n'était pas assis ensemble, t'en souviens-tu?
Parce que j'avais pas acheté mes billets avant. C'est vrai. J'avais acheté les billets le soir même, je pense. Je me souviens pas, je sais pas si c'était à la billetterie ou bien de quelqu'un d'autre.
Scalper, je pense.
Ouais, je pense que oui.
Mm-hmm. Parfait.
Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein?
Exact.
Ouais. Fait que non, on était pas assez ensemble, mais quand même, c'est toujours le fun pareil d'avoir un show de lutte, là, surtout un show de cette envergure-là, live.
Ouais, c'était un drôle de carte. Une drôle d'époque, c'est 2009. C'était pas la meilleure époque.
Non, mais il y avait beaucoup de bien quand même dans ces années-là.
Oui, il y a beaucoup quand même de star power. On est chanceux à Montréal pour ça. Là. C'est dans ce show-là, il y a DX, Taker, Punk, entre autres. Donc, c'est déjà
très bien. Cena Orton.
Cena Orton.
Jericho.
Fait que on est bien, bien chanceux.
Oui. Fait que avant, on regarde des plugs plafonds à cette heure, on fait, là.
On peut le faire tout de suite, vite, là.
Okay.
On va le faire vite avant qu'on commence le review de ce Breaking Point-là, de ce show-là. Bien, évidemment,
si vous... Sujet.
Mm-hmm. Si vous voulez nous encourager, bien, Patreon, hein, un tiers à 3$, un tiers à 5$. Le tiers à 3$, évidemment, c'est pour avoir tous les podcasts en avance, plusieurs entrevues aussi avec des lutteurs québécois. On essaie toujours de vous dénicher les meilleures histoires, les meilleurs talents pour raconter l'expérience dans la lutte professionnelle.
Puis, on est des vrais franc-relèche.
Exact. Puis il y a des affaires qui s'en viennent que je ne peux pas parler. Là. Évidemment, il y a des petits projets qui se travaillent en arrière. Puis on n'aime pas. On a appris que les années, on ne parle plus des affaires qu'on a. On le fait, puis après ça, on en parle, pour être sûr.
Si on en parle, parce que c'est déjà fait.
C'est déjà fait, exactement. On va être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Puis 5$, ben pour le tiers à 5$, ben, il y a des bonus, il y a les under collections, il y a les podcasts en avance aussi, il y a le pool de lutte que j'aimerais ça que vous participiez un peu plus, ça serait le fun. Puis sinon, il y a d'autres petites affaires là, qu'on rajoute ici et là, des bonus, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Beaucoup, beaucoup de stock par semaine pour vrai.
Sur Facebook, ça participe, les prédictions quand même?
Ouais, mais j'aimerais ça, moi, que ça participe sur le Patreon.
Ouais, mais c'est pas tout le monde qui sort sur Facebook qui sait qu'on a un Patreon, malheureusement.
Ouais, les algorithmes sont pas faciles. Là. Je sais qu'il y a du monde qui voit pas des affaires passer des fois, mais en général, la réponse sur les réseaux sociaux est quand même très intéressante. Là. On vous remercie pour ça. Donc, puis évidemment, suivez-nous partout, hein, TikTok, Instagram, Apple Podcasts, Balado Québec,
Facebook, Twitter.
All around. TikTok, là, pour vrai, je commence à... J'ai mis des affaires récemment. Là. Je commence de plus en plus. J'ai du stock là, de côté qui s'en vient parce que les jeunes aiment ça. On va aller vous chercher un par un, les maudits.
Je t'ai envoyé pour 2 heures de footage du Chamber. Là, tu pourras en mettre là-dessus.
C'est vrai. Ça,
ouais. Surtout ceux que tu n'as pas mis dans la vidéo. Bref, deux semaines, j'ai fini. Fait que c'est tout pour les plugs. Ouais. Êtes-vous prêt pour le Breaking Port Review?
Non. J'ai dit, êtes-vous prêt?
Ben non, c'est pas vrai. On n'est pas prêt pour ça parce qu'avant de faire ça,
ouais.
Quand on fait Retro Review, on fait quoi d'habitude?
Ah oui, pas dans la vraie vie.
Yes, sir! Dans la vraie vie!
C'est plein
de temps. Avec votre animateur, TJ Holiday.
Je vais être obligé de mettre un jingle bientôt pour ça.
Oui. Et mon contestant sur la chaise à côté de moi, Marco!
Je suis pas à côté de toi.
Non, pas techniquement, mais à l'écran, oui.
On serait dû, hein, pour en faire un live.
Oui, c'est vrai. On a fait une couple dans deux collections, mais c'est tout pour l'instant. Mais c'est parce qu'on ne se le cachera pas, là. C'est pas plus facile de faire un podcast chacun de notre bord que d'être tout le temps en même place. Je dis ça de même.
C'est plus facile.
Bref, es-tu prêt pour deviner ce qu'il y avait à l'époque du Breaking Point dans les affaires comme les chansons, les jeux vidéo et le sport?
Les magazines aussi, non?
Ouais, magazine, oui. Là. J'ai oublié de t'envoyer. Non, je sais. C'est pas grave, je suppose.
Ok, c'est
vrai. Dans ça, les magazines en 2009, c'était moins intéressant qu'avant. Pour vrai. Là. Chanson numéro 1, en Amérique du Nord. Celle-là, je pense que tu pourrais l'avoir, pour vrai. C'est quelque chose de quand même. Ouais, c'est quelque chose qu'on a entendu très, très, très souvent.
En 2009?
Surtout à lutte.
Ah oui, je sais. Je sais c'est quoi. Attends un peu. C'est les Black Eyed Peas. Pis c'est la chanson, c'est quoi déjà? Not tonight's gonna be a good, good night.
Moi, j'ai un petit sentiment que tu étais pas loin.
Ouais, c'est Black Eyed Peas, mais je me souviens pas du titre. Fuck.
I got a feeling.
Feeling. Ouais, c'est ça.
Fait ouais, que, on entend souvent d'autres, on était à ICB dans ce là, puis un lutteur, Justin Diamond, qu'on salue. Il y a ce tune-là, puis on l'entendait quasiment 3 fois par show. Bref, ben bonne réponse. Tu l'aurais-tu, je t'aurais dit pas de donner l'indice?
Non.
Non, c'est ça, hein, ouais, je pensais. Deuxième, je t'en donne pas. Okay. Chanson numéro 1, au Québec, quelque chose que t'aurais besoin bientôt.
Du sommeil, ouais.
Là aussi, là.
Quelque chose que j'aurais besoin bientôt. Pourquoi j'ai l'impression que c'est chiant encore?
Ben non, c'est pas si chiant.
Je sais pas, je sais pas, je donne ma langue au chaud.
Caméra vidéo, les 3 accords! On a ça, les petites affaires qui ont.
C'est insight, c'est bon.
Ouais.
C'est bon.
Film numéro 1 au box-office, ça, je pense pas que tu vas l'avoir parce que moi, je savais pas c'était quoi ce film-là. Mais vas-y, essaye quand même.
Est-ce que tu as un nom d'acteur, un réalisateur, quelque chose? Non?
Ben, je peux donner un indice, c'est un film d'animation.
En 2009?
Ouais.
Les Mignons?
Non, le film s'appelle Neuf.
J'ai arrêté à 8.
Ou 2009, c'est ça, ouais. T'aurais, ça, t'aurais dit 10. T'as un plus haut, un plus bas. Non, un film neuf, ça s'appelle un film d'animation. Fait que je sais pas c'est quoi, là. Bah, pour moi, ça a passé dans le beurre parce que j'ai vraiment entendu parler de ça avant.
Je te reparle de ça dans 5 ans.
Parfait. Je ferai écouter à tes kids.
Ouais.
Jeu vidéo sorti alentour. Je sais que tu l'auras pas parce que c'est quelque chose de.
Tekken. Diablo.
Non, c'est pas Diablo 1, ni 2, ni 3. J'ai c'est un petit fait pour le 2.
C'est quoi?
Mario et Luigi's Bowser... Bowser Inside Story pour le Nintendo DS.
C'est vrai que c'est niché, mais c'est pas c'est si niché que ça non plus.
Là, pour vrai, là. Des fois, j'essaie de trouver des affaires populaires, mais... Dans le monde du sport! Ça c'est... Je peux te donner... Ben, je peux... T'en fond, t'as pas à te deviner. Là. C'est une affaire que tu trouveras jamais. Là.
Non?
Ben là, crime. Je dis, c'est quoi? Pas d'escrime, mais non, du bowling.
Okay.
C'est un joueur de bowling.
Oui, c'est quoi?
Dans le monde du sport.
Oui.
Kim Clijsters a battu Caroline Wozniacki.
Au tennis.
Le US Open. Hein,
au tennis.
Oui, au tennis. Pour gagner le US Open 7-5 et 6-3.
Oh, c'est important, ça.
Ben oui, c'est important. Crème. On dit quelque chose dans l'histoire, vous le dire au complet.
Kim Clijsters, très bonne joueuse.
Pour ne pas jouer avec les chiffres. Hein. Sur le WWE Magazine de septembre 2009, qui était dessus? Il y a des nouvelles, cet ancêtre.
Cena?
Non. Un juge gentil m'a donné un deuxième guess. Il y a des nouvelles, mais pas pour les meilleures raisons.
Vince McMahon?
Non. La réponse est Jeff Hardy.
Ah, oh, ben il est correct, il ne fait pas de prison.
Non, mais il a quand même sorti des nouvelles de lui pour ses affaires. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Fait que t'en as un sur la gang, mais en même temps, là-dessus, là, ouais. À part celui que t'as eu, il n'y a pas grand-chose que t'aurais deviné à n'importe qui. Là.
Puis bon. Celui que j'ai eu aussi, tu parlais de Justin Diamond, j'étais en rivalité contre lui, moi, ici de Blavie. Fait que...
Ouais, moi aussi, j'étais en rivalité contre lui de manière. Au début, j'avais fait mon premier match Broadway. Ben oui, un match.
Tu étais à Broadway?
Oui, ouais, j'étais à Broadway. Ben oui, on était ensemble.
Attends. Je vais prendre des pastilles voir si le monde va aimer ça.
Ben là, c'est soit ça ou ben je trouve pendant tout le long du podcast. Fait que c'est à votre choix à vous autres, hein, Alfredo. bref. je t'ai rendu, voilà.
Wow.
En tout cas, bref, Breaking Point.
Oui, en effet.
Et le ouais, je te rends mon breaking point pas mal. Là. Et sur le premier et le seul pay-per-view de ce nom, ça a été un grand succès apparemment. Le show a pris la place de Unforgiven et que l'année suivante, ça va être la Nuit des Champions. Oh. Fait que Breaking Point va devenir aussi, ça aussi c'est niché, là. Il va devenir le nom qu'il va avoir pour le système de soumission dans WWE 2K, WWE 12, pardon. Ça va s'appeler le Breaking Point Submission. Tu sais, il fallait que tu payes sur les boutons là, pour t'empêcher de taper. Là.
Le 12, c'était-tu avec Punk dessus comme...
12, non. Le 12, c'est Orton dessus. 13, l'année d'après, c'est CM Punk.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il était bon, ça, là.
Oui. Puis, évidemment, le show va avoir lieu le 13 septembre 2009, en direct, évidemment, du Centre Bell de Montréal, Québec, bien entendu. Et pour la toune intro du show, on a une toune de Lynyrd Skynyrd, Still Unbroken.
Mais tu l'as pas dit comme du monde.
Ah oui? Comment tu dis ça comme du monde?
Ben, il y a un nom dans le titre.
De quoi, là?
Skynyrd. Skynyrd.
Ah, c'est bon, j'avais pas pensé à ça. Still Unbroken de Lynyrd Skynyrd. Oh, putain, on sait pourquoi on fait ça, hein? Juste pour une personne encore.
Ben, tu sais.
Quoi que c'est ça qui commande, fait que... Et voilà. C'est le biche. Et il y avait un match de pre-show, c'était quoi?
Je l'ai pas marqué, mais ouais, c'est ça.
Evan Bourne, qu'on l'a reçu au podcast une couple de mois.
C'est vrai.
A battu Chavo Guerrero Jr. avec le beau Shooting Star Press. Oui. Et là, évidemment, on est dans le temps où il y avait trois brands, évidemment, Raw, SmackDown et ECW. Mm-hmm. Et évidemment, les commandants de la soirée pour Raw étaient Michael Cole et Jerry the King Lawler. Pour SmackDown, c'était Todd Grisham et good old JR Jim Ross. Et pour ECW, Josh Matthews et Matt Striker, avec des pantalons cette fois. Et voilà.
Il n'a pas montré, non?
Non, exactement. Et on est prêts pour le premier combat de la soirée. Match numéro 1.
Oui.
Pour les championnats par équipe unifiée, Chris Jericho et Big Show, Jericho, contre MVP et Mark Henry.
Une autre preuve que la WWE n'a jamais pris sa division tag team au sérieux.
Ou qu'ils sont dans AEW.
Ouais, c'est ça. Ils sont tous. Ils mélangent deux gars encore pour faire une équipe. Puis, c'est pas
correct, une... ça. Je trouve que Jericho et Showmiz, c'était correct.
Je sais pas. Jericho, oui, parce que Jericho est divertissant, mais si t'enlèves Jericho de là, un peu de la merde. Puis,
c'est vrai que comparer Miz à Jericho, c'est cher pour Jericho.
Tu sais, la storyline. Attends. Un peu ma pastille.
Ah ouais.
La storyline, c'est que. Tu sais, Mark Henry, c'était le gars le plus puissant au monde. Il a réussi à lever Big Show, fait que c'était bien impressionnant. Il y a MVP qui avait réussi à avoir une victoire sur Jericho les semaines d'avant. Puis les deux s'étaient alliés pour battre Jericho, puis ça a donné un combat classique, par équipe. Ouais, un combat par équipe au pay-per-view.
On se croise pas la tête, on boucle ça comme ça. Gars. Les gens par équipe perdent leur match entre le pay-per-view, puis rendu le pay-per-view, ben ils gagnent. Bref, bon début de combat avec MVP qui domine Jericho. Évidemment, MVP, quand MVP tag Mark Henry, Y2J court vers le Big Show et c'est l'homme le plus fort contre l'homme le plus large. Et la foule est derrière le gros spectacle. Et dans un spot impressionnant, Henry attrape Show qui l'a sauté dans le fond, il a fait un genre de Stinger Splash, puis l'a attrapé en bear hug, puis il l'a reposé dans le coin. Un beau spot pour vrai de Mark Henry qui a montré toute sa puissance. Et après ça, Henry tient Big Show en World Strongest Slam, mais Jericho le frappe dans le dos. Puis Jericho tombe sur Henry pour un compte de deux. Et après ça, un beau comeback de face de MVP sur Jericho qui lasse à merci avec le ball in elbow pour un compte de 2.5. Et après ça, Big Show fait un blind tag et sort Porter de ses shorts avec un gros spear. Et les champions prennent les devants par la suite. Et dans un beau spot, un autre. MVP tombe sur ses pieds d'un hip toss et Jericho, il fait un DDT à Jericho pour un double down. Et autour de Mark Henry de faire un comeback de face. Splash sur Jericho pour un quand Show vient briser le tombé. Et après ça, Show envoie MVP en bas et Henry envoie Show en bas pour par la suite. Fait qu'on les rejoint avec Jericho et Henry dans le match.
Mm-hmm.
Et Jericho essaie le briseur de code, mais Henry l'attrape. Il le lance dans les airs en l'ordre de Flapjack. Puis c'était cool parce que quand il l'a pogné, ben, il a gardé Jericho un peu dans les airs.
Ouais.
Jericho, il faisait la
gueule. Ah!
C'était bien fait. C'était un cool spot. Mais malheureusement pour Henry, il va trop proche des cordes et Big Show le ramasse avec son knockout punch. Et après quelques secondes, évidemment, Jericho a rampé vers Big Show. Il l'a tourné de bord. Le couvre pour le 1, le 2 et le 3. Toujours champion par équipe unifiée. Jericho.
La foule de Montréal encore se fait entendre plusieurs encouragements pour Jericho, qui était heel dans ce match-là. Henry et MVP n'ont pas eu assez
de. MVP avait des bons spots, il y avait des bons pops aussi.
Ouais, MVP parce qu'il est cool là, un peu.
Ouais.
Mais sinon, la foule était vraiment derrière Jericho. Évidemment, avec Jericho, ça aide aussi. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai marqué un match un peu sans saveur, sans intérêt. Là. J'ai trouvé le match pas mal boring, honnêtement. Là.
Moi, je dis que c'est un combat décent. Là. Rien d'extra, mais juste assez correct là, pour que ça soit assez pour un bon pour le show. Pas le meilleur opener, par contre. Là. J'aurais plus ou moins plus mis le match d'après comme premier. Ça, surtout avec le
Kofi Kingston
dedans.
Ouais.
Là.
Ouais. Exact. Ouais.
Fait que non, un bon combat, mais rien qui va passer à l'histoire. Là.
Non, malheureusement, c'est ça. C'est un peu le thème de ce pay-per-view. Là.
Ouais. Interview time avec Josh Matthews, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., wow. Deux tiers de Legacy. Et Cody dit que ce ne sera pas un match, mais une guerre. DX est excellent, mais qu'ils vont prouver que les underdogs du match ont les lettres D et X dans leur nom. Et DiBiase dit que DX est le passé et Legacy est le futur, très original. Et c'est à moitié vrai, ce qu'il dit dans le fond, ouais. Et qu'est-ce que Cody Rhodes veut lui donner, puis lui, dans son match. Ouais. Et après ça, DX est un peu comme les bâtons néons qu'il entre avec. Ils sont le fun et divertissants, mais après un peu de temps, ils perdent le glow et tu perds l'intérêt puis tu les jettes dans les vidanges.
Ooh,
et puis la promo était quand même correcte, mais c'est weird parce que si tu m'aurais dit à l'époque de gager sur qui serait le plus grand star des deux, j'aurais dit DiBiase. Avec la promo que j'ai vue, là. Mais oui, la promo que j'ai vue, l'autre, il avait l'air Darren Headlight, tandis que l'autre, il avait l'air. Ce qu'il disait DiBiase, je trouvais qu'il y avait plus de gusto à le dire. Là.
Ben moi, je regarde la promo de Cody Rhodes en ce moment, puis c'est pas un excellent go micro, là.
Au moins, il a pas dit que dans ce moment-là que son père, c'est Dusty Rhodes.
Fatiguant, on le sait, man, Nicolas. Hé, hey, puis il y a un affaire qu'on n'a pas dit sur Breaking Point.
Oui, oui.
Il y avait un thème pour ce pay-per-view-là.
Ben, c'était plus soumission, là.
C'est les thèmes de soumission. Tout le monde portait du cuir.
Ouais, ça. J'aurais tapé une couple de fois en regardant le show aussi.
Ouais.
Après ça, évidemment, ouais, ça fait qu'on est rendu au match numéro 2 pour le championnat des États-Unis. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ta concentration dans mon livre. Kofi Kingston défend son titre contre The Miz.
The Miz, fraîchement retourné d'action pour pas longtemps. Donc, c'est pas une grosse storyline, mais il revenait, il faisait un retour à la WWE parce qu'il était parti, je pense, tourner The Marine, je me trompe pas.
Ah, d'accord.
Mm-hmm.
Puis, évidemment, avant le combat, Miz parle français. Puis ouais. Quand il parlait, ça me faisait penser, tu sais, Stéphane Rousseau, son personnage qui fait, là, Scott Towell, là. C'est lui qui est son personnage qui parle franglais un peu, là.
Ah oui.
On aurait dit que c'est pratiquement la même affaire.
C'était peut-être ça qu'il faisait, non?
Ben, je pense pas, là, que ce soit intentionnel comme ça, mais il faisait penser à ça. Quand je l'ai entendu parler, je voyais Stéphane Rousseau qui faisait son comic dans ma tête. Puis le pire, c'est qu'il se ressemble un petit peu quand même, là, Stéphane Rousseau puis The Miz.
Là, tu dis ça parce que les deux sont mauvais acteurs, c'est ça?
Ben non, il était bon, il est dangereux. c'est mon frère! oui, ah, bon. Évidemment, les deux sont actifs au début du combat, mais le vent tourne du côté de Miz quand il kick Kofi, qui est sur la troisième corde, puis il fait une guillotine tout après, qui prend l'avantage de M. Mezzanine. Ça lui donne un compte de 1. Et Kingston essaie de revenir avec un crossbody, mais reçoit une botte de Miz en pleine poire. Et après ça, il y a un coup de pied en courant de Miz pour 2. Un flapjack pour un autre 2. Et le Miz prend les devants pour un long moment. C'est de la comédie. Quelques temps plus tard, c'est des mots, ben oui. Kofi monte signe de vie avec un SOS pour 2, mais Miz le remet au tapis avec un backbreaker délété renversé en combo. Et après ça, Miz met ses genoux sur un boom drop et ça lui vaut un compte de 2. Quand même un counter cool pour le leg drop de Kofi.
Ouais.
Miz et Kofi s'échangent les pins à temps. Après ça, boom drop réussi. Et un compte de 1, de 2 et de... Non! Dégagement de Miz. Et après ça, Kofi renverse un brise-nuque en poussant Miz dans les corps. Et sur le retour, trouble au paradis. 1, 2 et 3, Kofi garde son titre US.
Ouais, comme tu as dit tantôt, c'est le match qui aurait dû commencer le show. Un meilleur beat, là. Tu sais, puis Kofi Kingston, c'est un gars énergique que le monde aime. Il est très populaire, même à l'époque, il était très, très populaire en solo. Bon heel work de Miz. Par contre, je trouve que The Miz, c'était pas un adversaire. En tout cas, à cette époque-là, là, c'était pas le meilleur worker pour travailler avec Kofi parce que je trouve que Kofi allait trop vite pour The Miz. Il y avait de la misère à le suivre dans ses mouvements.
Ça aurait été, mettons, un Morrison ou un Mysterio ou un Ziggler, ça aurait été meilleur peut-être. Là.
Ben, tu sais, mettons, Miz 5 ou 6 ans plus tard, avec l'expérience que WWE title et tout, des fois ça aide, là, mais à ce moment-là, c'était laborieux, je trouvais. En tout cas, quand j'écoutais le match.
Ouais, j'ai trouvé que c'est un match qui était un bon match solide. Mais il était un peu long par bout des fois. Là, mais sinon, c'est pas bien partout comme combat. J'ai bien aimé ça. Puis comme j'ai dit, puis t'as dit, ben, ça allait être l'opener, à mon avis.
Ouais.
Et là, match numéro 3.
Déjà?
Ben oui, c'est déjà rendu à ce moment-là. DX contre Legacy dans un Submission Count Anywhere. Puis ça, je suis pas sûr, là. Je me tromperais peut-être, mais dans le fond, non. Là. Mais il y a une grande histoire avec ces deux équipes-là, non?
Un peu? Non, il n'y a rien.
Ah, parfait.
Non, dans le fond, Cody puis Ted DiBiase se sont associés avec Randy Orton préalablement pour former Legacy. On sait que c'est des deuxième, troisième génération de lutteurs. Cody, c'est la troisième avec Dusty et Dustin. Puis, se sont associés à Randy Orton. Je trouvais que c'était une stable assez solide. Là. Ils ont... Pas qu'ils ont manqué le bateau. Là. Ça a fini qu'un un triple threat match à WrestleMania, je pense que c'était l'année d'après. Pas cette année-là, mais l'autre année d'après.
Ouais.
Puis, je sais pas, ça aurait pu être quelque chose de mieux, mais ils l'ont un peu échappé. Puis, je pense que Cody Rhodes aurait dû sortir plus fort de ce truc-là. Mais sinon... Il y avait eu, ça c'est le après Triple H Orton à WrestleMania, la fameuse rivalité personnelle où ce qui est allé dans la maison, puis que la rivalité était écœurante, mais que le match à WrestleMania 25 était pourri comme le Chris.
Ben, quand c'est Triple H contre Orton, t'attendais à quoi?
Puis il y avait aussi eu Shawn Michaels qui avait perdu contre Undertaker, puis il avait fait son retour un peu plus tard en DX. Il avait super kické. D'ailleurs, le gars backstage avec... c'est quoi? C'était des journaux qui avaient des feuilles de papier, là?
Ouais, c'était Sean Spears, ça.
C'est Sean Spears?
Ben, me semble.
T'es sûr de ça?
Ah non, c'est plus tard, je pense. Ouais, ouais.
OK.
Oh, ouais, non.
Puis,
il y avait pas kické une petite fille aussi?
Non, ben non.
Oui?
Sean n'a pas kické une petite fille.
Ben oui, il était chef dans une cafétéria, puis la petite fille l'écœurait, puis il a crissé un super kick.
C'est bon,
on n'a pas vu la petite fille, évidemment.
Ah, OK. Ils l'ont pas montré.
Non, quand même, faut pas je chante rien.
Ouais, c'est ça. Fait que HBK est revenu, puis après que les deux ont eu des rivalités personnelles, ben ils se sont remis ensemble pour former la DX. Puis évidemment, ben les jeunes loups qui se sont associés à Orton, ben ça a permis à Orton de se dégager de Triple H, puis que les deux peuvent... attaquer un peu des jeunes loups qui attaquent des vétérans pour faire leur nom. Il y a eu trois matchs entre les deux. Il y a eu un tag team classique qui avait été remporté. Je pense que ça avait été DX qui avait gagné le tag team match. Il y a eu ce match-là que tu vas parler à Breaking Point. Puis il y a eu un match après qui était dans un Hell in a Cell avec DX contre Legacy. Donc, on vous laisse deviner un peu ce qui va se passer. Mais on va parler du deuxième match. On vous dira qui a gagné le Hell in a Cell par la suite. DX a gagné le premier dans un match classique.
Classique, comme Coca-Cola classique.
Oui, exact.
Et micro de DX avant de l'arrivée de Legacy. Et pendant que Gunther fait son speech, on entend des You Screwed Brett. Puis d'abord, ben là, c'est correct. Là.
Ouais.
Triple H dit que c'est la faute à Sean. bon, il y a un bon pop pour ça. J'étais même pas là, moi. Évidemment, le reste de la promo, on la connaît. Là.
Ouais.
Et évidemment, c'était humoristique, là, mais on sait très bien que c'est de sa faute à lui. Là.
À qui?
À Triple H.
Ça fait partie du plan?
C'est quand la bio, là?
Ah.
Ouais, c'est ça. Sean va vers Cody, Hunter va vers Ted pour commencer la bataille. Et DX s'en prennent aux jambes de Legacy. Et ça prend pas de temps avant que les quatre aillent dans la foule de Montréal. HBK a Ted en guillotine choke avec l'aide des armes de métal en montant en haut. Pendant que Triple H et Cody sont dans les concessions en haut en train de se battre, direct devant la glacière Boston Export. Ça donne soif. Ted finit par les rejoindre et Sean aussi. Et rendu là, DX leur font des prises en quatre en simultané. Et ils s'en sortent, et, évidemment, après ça. Ils reviennent tout ringside. Et Hemsley prend les jambes de Rhodes et les rend.
Attends un peu. T'es sont allés dans les concessions en haut?
Ouais.
OK.
C'est quoi, là-dessus? Vas-y, dis-les. C'est quoi? Ton moment pour shiner, là. Moi, j'ai regardé la séquence, j'ai essayé de voir quelque chose, puis j'ai rien vu.
Non. À partir du moment où ils sont allés dans les concessions, à ce moment-là, j'étais avec Louis à côté de moi, Mathieu Brousseau. Puis on s'est rendu compte qu'on était proches, puis on est partis à courir. Où ce qu'étaient les lutteurs? Évidemment, il y avait une grosse foule qui était là.
Ben oui, c'est sûr.
Et pendant un court moment, j'ai pu, de mes mains nues, toucher mon idole Triple H. Plein de sueurs qui se bataillaient dans le. Fait que là, dans le fond, il y avait deux de mes préférences, comment je pourrais dire ça, deux de mes passions qui étaient là, Triple H et la bouffe.
Ouais.
Au même moment, donc j'ai touché mon idole pendant qu'il se battait en DX à Montréal. Fait que ça, c'est un moment spécial pour moi que je chéris depuis ce moment-là.
Tu as regardé quand le foulage, je vois que tu voyais peut-être.
J'ai essayé de me voir, mais je ne me suis pas.
Parce qu'il y a tellement de monde, vu ça. Là.
Ouais, c'est ça. Mais ouais. Je sais que Triple H, je n'ai pas oublié ce moment-là aussi. Si tu en parles, il pourrait dire que j'étais là.
Ouais, je suis là de ça. Okay. Ouais. T'es content, là, c'est sorti, là?
J'ai touché, hein?
J'ai touché, ouais.
T'as-tu déjà touché à Brett, toi?
Non.
C'est ça.
Ben, c'est correct. J'aime mieux pas toucher à Brett que toucher à Triple H. Bref, là, on va un petit peu plus loin. On vague un petit peu. Là.
On vague.
Hemsley prend les jambes de Rhodes et les rentre dans une chaise. Il lui fait le crabe de Boston. Après ça, Sean arrive et prend Cody en prise du chameau.
Oh, yes.
Un beau visuel pour vrai, là, évidemment. Ouais. Cody, il est pogné dans la chaise puis les deux font les soumissions dans le temps. C'était cool à voir. Puis après ça, évidemment, ben, Ted est venu l'aider. Il doit sortir du pétrin. Après ça, on a un spinebuster de trips sur Ted dans le ring. Après ça, il fait un crippler crossface. Et autour de Rhodes, il a sauvé DiBiase. Ils sont gentils, ils s'aident entre eux autres. HBK et Cody vont se rabattre dans la foule et on voit plusieurs lutteurs connus de la lutte québécoise comme Darko, Frankie the Mobster et Kevin Steen, évidemment.
On
ne connaît pas, non, évidemment. Rhodes pousse Michaels jusqu'en bas. Il tombe sur un genre de padding avec un drap noir par-dessus. Et après ça, tu vois, il doit être en solo pour un petit bout. Puis Hunter amène Cody backstage. Et après ça, évidemment, Legacy qui a un avantage sur DX. Ça donne à cœur jouer à 2 contre 1 sur Hunter. C'est tout juste pas là. Et Ted, oui.
Il a deux.
Parfait, j'espère. Et Ted lui fait le $1 million dream pendant que Rose lui crie d'abandonner. Et Triple H kick Cody et recule dans une poutre et DiBiase lâche la soumission. Et après ça, un autre spinebuster, mais c'est passé dans la table de concession, la table de bouffe de catering.
Fuck.
Ouais. Ça va aller partout, c'était malade. Crossface sur Rhodes. Mais DiBiase stoppe ça avec un coup de glaceur direct sur le front de Triple H. Et après ça, là, c'était fou parce que Triple H, genre, il vend la shot, puis il est comme ouais. ça, la bouche grande ouverte. Puis DiBiase, lui, il trisse un autre shot de glacière, il drette sa tête sans qu'il s'en rende compte.
Ça n'attendait pas, là.
Aïe, aïe! Moi, j'étais genre, j'avoue que Triple H, puis genre, Chris, c'est un peu exagéré. Là. Chris, le gars, il est de même, il réagit pas, puis Chris fait une shot de glacière. Tu vois, je fais.
Et voilà que pourquoi son push a fini après.
Ouais, doit être ça. Il a pas frappé assez fort, je suis encore là. Ouais, c'est ça. Après ça, évidemment, avec ça, DiBiase, mais je sais pas, j'étais un peu dans les vapes, parce que des Legacy, ils vont voir Shawn Michaels qui est tout seul. Puis, tu sais, il était pas protégé son cou. C'est comme après, si mettons, je te donne un exemple, tu vas peut-être relate là-dessus, je sais pas. Tu sais, quand mettons, t'es dans un match de lutte, là, un combat, puis t'es la face à terre, tu vois pas qu'il se passe autour de toi, puis quelqu'un, un débile léger dans une échelle dans le ring, puis ça tombe sur la tête. Tu as dit quelque chose, ça? Ouais, c'est ça.
Ça m'est jamais arrivé, moi, en tout cas.
Non, mais moi, ça m'est arrivé, puis c'est pas le fun, pas en tout.
C'est qui l'épée qui a lancé ça?
Toi.
Oh!
It was you, Hunter.
All along.
Et avec ça, Legacy va s'occuper du Heartbreak Kid. Et Sean tient son bout et envoie Ted en bas. Cody avec un ankle lock maintenant. Mais Sean s'en sort et donne à Rhodes de la douce musique de mâchoire. Et après ça, prise en quatre inversée. Et DiBiase doit intervenir pour sauver son partenaire. Et après ça, Legacy va le faire à Sean un spike pile driver. Mais il kick Cody en bas et backdrop de DiBiase Jr. Il est en position de super kick encore une fois. Mais là, Cody lui tire les pieds et l'amène dans le coin. Il finit par lui faire la prise en quatre avec le poteau. Vraiment, le move de Brett.
T'es rendu le faire quand je te l'ai dit, ça.
Hey, les insides pleuvent dans ce match-là, c'est fou.
Ouais.
Et oui, évidemment, Sean essaie de se débattre le mieux qu'il peut. Mais malheureusement pour lui, DiBiase arrive derrière lui et il rajoute avec le rêve du million de dollars. Il chante le débat comme un diable dans l'eau bénite. Pendant qu'on voit Triple H essayer de ramper vers le ring. Mais malheureusement pour lui et son partenaire, c'est trop tard. Et Shawn Michaels tap out et Legacy remporte le combat à la surprise de beaucoup de monde.
Ben, c'était un pretty big deal de faire taper un Hall of Famer comme Shawn qui venait de sortir d'une grosse rivalité contre Taker aussi. Là.
Ça, c'est pas si de battre Shawn tout court.
De battre Shawn tout court, ouais, c'est ça.
Ouais. Que, de pas qui avait fait ça certain. Hein?
Qui ça?
Pas l'autre qui avait fait ça certain. Hein? Du monde over, des plus jeunes. Hein?
Ben, je pense qu'il a mis pas mal de monde over dans sa carrière.
Là. Oh, ouais, ouais, c'est sûr. Quand ça faisait son affaire à lui, ben oui.
On en reparlera s'il y a une biographie sur lui qui s'en vient, parce que j'ai une longue liste de monde qui a mis over.
Tu sais très bien que ça s'en vient. Arrête de le faire à la fin. À fin d'année. Ouais, fait que sinon, pour vrai, excellent match. Un bon, ben, excellent brawl plutôt. Là.
Ouais.
Puis puis le finish était vraiment, vraiment beau pour vrai. Là. J'ai aimé que c'était créatif comme fin là, de submission. Parce que tu sais, Shawn Michaels, logiquement, c'est quand même un gros gars. Fait que dans l'échiquier de la lutte là, à ce moment-là, fait que faut que tu fasses de quoi le gros pour qu'il abandonne. Puis c'était pas out of place qu'il abandonne sur deux submissions en même temps. Surtout Figure Four du poteau qui a déjà mangé à plusieurs reprises de quelqu'un qui était encore meilleur que lui.
Excellent match, bonne rivalité. La foule, ça a réveillé un peu la foule parce que pas que la foule dormait, mais les deux matchs d'avant c'était correct sans plus. Mais là, les décibels ont monté avec DX et Legacy qui étaient quand même assez populaires comme Tag Team Hill, pareil, ils étaient respectés.
Ah ouais.
Puis DX et DX. Fait que, ouais, ça a remis la foule dedans. Montréal est rembarqué dans le bandwagon de la WWE. Puis on parlait tantôt d'un troisième match qui a eu lieu. À LNSL entre ces deux équipes-là, et c'est le troisième match, donc 1-1. Je vous laisse deviner qui a gagné le troisième match.
Les jeunes loups qui ont besoin de la victoire à tout prix pour ancrer leur place dans l'histoire, ou bien le vieux routier qui ne veut pas perdre tant qu'il n'aura pas son affaire?
DX a gagné.
Exactement. Avec sinon, pour vrai, un bon match, j'ai bien aimé, puis le fait était vraiment beau.
Ouais, c'était original comme match.
C'était top, quoi.
Ouais, top, top, top.
Nos amis de la France. Interview time avec Josh Matthews et Randy Orton. Orton dit qu'il n'a aucune réaction sur Legacy parce qu'il savait qu'il gagnerait le combat. Mm-hmm. Évidemment, et après ça, il parle de son opposant John Cena pour ce soir. Puis il dit que Cena, il a dit qu'il n'était pas capable de dire les mots « I quit ». Puis lui, il ne comprend pas comment il peut être si sûr que ça. Puis il va le forcer à dire ça pendant leur match ce soir. Puis ça a l'air court de même ma promo que j'ai dit pour dire ce qu'il a dit, mais ça lui a pris du temps pour dire ça. Mais aussi d'ailleurs, parce que ça m'a pris une couple de fois à me réveiller pendant la promo parce que c'était tellement plate que je vais m'endormir dessus. J'ai inventé des cure-dents, hein? C'est très pratique dans ce temps-là.
tu sais, des fois, il faut être
objectif. Non, regarde, écoute. Et le Randy Orton, de même Viper, le méthodique, le slow, là, pas capable, dégueulasse.
Cheveux rasés.
Oh, avec ses flots.
Avec ses petits os sur le côté qui fait. Il fait bouger, ouais. Là, que ça.
Fatiguant, non, c'est, je suis pas capable.
Parlant de pas capable puis fatigant, on passe au prochain match.
Ouais, ok, voilà. Okay, si vous voulez endormir, vous allez prendre une semaine, allez voir la promo de Breaking Point de Randy Orton. Match numéro 4. Oh boy, on a on our hands. Kane contre The Great Khali, Ranjan Singh dans un combat de Cannes de Singapour. Et après une minute, les deux ont chacun un kendo dans les mains puis ils font leur Star Wars, ou comme dirait Todd Grisham, c'est Ryan Howard contre Albert Pujols. Ils jouent, et Khali amène Kane dans le coin et les deux tombent presque en pleine face sur, le moment, puis tu vois un peu de foule qui eut, là, c'est drôle. Et Kane s'en va en bas de la reine. Il dropkick Kane dans le genou, il le forme avec la canne plusieurs fois et il le remonte dans la reine. Et Kane prend l'avantage avec le kendo stick pour prendre Khali comme une piñata. Et la foule eut encore plus. Et autour de Khali de frapper avec le bâton dont un coup drette sur la tête de la grosse machine rouge. Et après ça, évidemment, le finish de Khali, la chop sur la tête.
Oui,
de Nombrad. Et ça compte un compte de 2 à Khali. Et après ça, Khali prend ses mains et tente d'écraser la tête de Kane, un peu comme Crush à l'époque, là, dans les années 90, 93 à peu près.
Crush, là, c'est celui qui était suspendu par les pieds par Macho Man. Là?
Oui.
Oh, yes.
T'es pas tombé, t'as pas dit Adam Bomb cette fois-là.
Non.
Oui. Et Kane s'en sort avec 3 coups de kendo pendant qu'il est dans la prise. Sur la tête du géant Punjab. Et après ça, Kane va à son spot classique de la clothesline de la top rope, mais cette fois-ci avec le kendo stick à la main. Et choke slam, mais Ranjan monte et frappe Kane avec la canne. Kane avec la canne, hein, c'est bon.
Ouais,
ça n'a aucun effet, un peu comme ma joke. Et Kane le met au tapis. Khali est distrait par ça, il reçoit un choke slam et c'est comme ça que ça se termine.
C'était meilleur ton review que le match que j'ai écouté. Bon, ouais, ça avait l'air bon de même, pour vrai.
Mais sérieusement, Kane contre... Ouais, vas-y.
Ça l'était pas, c'est tout.
Non, pas vraiment. Pause. Et évidemment, c'est Kane contre Great Khali, vous attendiez à quoi, vraiment, là? Fait que même des coups de Kane gratuits, ils n'ont pas changé vraiment grand-chose à ce combat-là. Fait que...
Si vous avez un match à skipper-le, ça ne changera rien dans votre vie.
Ouais. Interview time avec la jolie Yves Torres et CM Punk. Et CM Punk dit que personne ne donne une chance de gagner contre Undertaker. Pareil comme que personne ne donne une chance à gagner contre Jeff Hardy dans le TLC le mois d'avant à SummerSlam. Mais whoops, il est champion maintenant et a prouvé à tout le monde qu'il avait tort. Et la force d'une vie straight edge, c'est que tu peux battre n'importe quelle personne, même si c'est la force des ténèbres. Il dit qu'il n'a pas peur de rien de Taker qu'il peut donner. Quand la lumière se ferme, et c'est Jimmy Wangang of all people qui a fait ça. Moi, là, j'ai vu qui a fermé les lumières. Quelqu'un de relevant, c'est Jimmy Wang. Je vais dire, t'es sérieux, là? Il souhaite la bonne chance à Punk. Il va lui serrer la main. Ben oui, toi, ben comique. Il fait 25 cups, pour ça, je veux qu'il serre la main.
25 cups? T'as quel âge? 84?
Je voulais pas que le monde le sache. Merci beaucoup.
OK, parfait.
Puis t'as 7 ans. Oui, c'est ça. Punk, cet enfant, on a appris ça la dernière fois. Punk le fait, mais il le pète après. C'est bien mérité. Hein? Je suis au revoir à lui. Punk finit en disant que c'est Taker qui devrait avoir peur de lui et non le contraire.
Ce n'est pas la première fois qu'on voit Punk dans une bataille de backstage.
Oui. Et ça va être enregistré, par exemple. Oui. Match numéro 5. Christian contre Willem Regal avec Ezekiel Jackson et Vanny Kozlov. Tu sais, l'endroit où on parlait de Bonne Faction.
Oui. Et voilà. T'es qu'à la face de William Regal sur YouTube, il était cœur.
Hein? C'est le Matusalem européen. Et, pour évidemment, le site ECW est en jeu, détenu par Christian, notre nom défendant. Puis là, je te cède la parole, non seulement pour le countdown, pas le countdown, mais le comment le match est arrivé, mais pour le play-by-play.
Oui, play-by-play, bien évidemment, Ezekiel Jackson et Kozlov sont bannis du ring pour ce combat-là. Donc, ça peut juste être meilleur. Hein. Écoute, t'enlèves les deux plus poches de ce combat-là, puis...
Ouais, mais là, même pas, ça change quoi?
Ben, ils sont là, c'est tout. Fait que t'as un match Christian contre William Regal Clean, un match beaucoup plus technique que ce qu'on a vu auparavant dans la carte, mon cher TJ.
La SummerSlam le mois d'avant aussi.
William Regal qui bat de plusieurs souplesses explosives. Donc, un maître.
Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça.
De quoi?
Ben, qu'avant le mois d'avant à SummerSlam, tu sais pas pourquoi j'ai dit ça?
Non.
Ben, parce qu'il y avait un match à SummerSlam le mois d'avant pour la même ceinture.
Ouais,
puis le match a duré 5 secondes. Parce que ils ont sonné la cloche. Regal avait son manteau, que Christian le pognon de Prettier puis l'a piné.
Bref. Match dominé par William Regal qui bat de souplesse et de coups de genoux assez violents, comme seul William Regal peut le faire. Christian qui est clairement c'est le champion, mais un peu le underdog dans ce match-là, je trouve. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, non?
Non.
Ok, parfait.
Ben, c'est le babyface, fait qu'il est plus underneath, là, mais non, je ne suis pas d'accord tant que ça. Là.
Donc, travaille beaucoup la tête de Christian pendant le match. Il va de coups de genoux à répétition. Et mon play-by-play est beaucoup plus court que toi dans ce cas-là. Après un running knee, donc un coup de genou en courant, Christian va renverser et va lui faire... comment j'avais appelé ça? Le meurtre renversé, c'est ça? Le kill switch engage, c'est ça? Le kill switch engage? Non, ça, c'est la toune.
Kill switch, c'est la switch, la lumière. Comment t'appelles ça une switch en français?
Le pas beau.
Ouais, non, je pense quoi. Moi, j'appelle ça le pas beau. Pareil qu'on a soumission de Edge et le scrunch crunch.
Le scrunch crunch, exact. Donc, il va y faire sa prise de finition pour le compte de 3, déjà. Et Christian, toujours champion de la ECW.
Moi, j'ai bien aimé, pendant le match, à un moment donné, pendant que Regal a l'avantage, il y a beaucoup de chat Voshi Regal, c'est malade.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Ouais, c'est bon. Sinon, évidemment, un très bon match entre les deux, puis je suis pas surpris par tout.
Non, c'est un bon match, mais je pense qu'il aurait pu nous en donner un petit peu plus.
Bon.
Je sais pas.
Moi, c'est correct, quoi.
Ouais, mais toi, à date, t'as l'air de trouver pas mal tout correct du show.
Ben là, non. J'ai pas dit que. Non. Elle dit que c'est correct et être bon, c'est pas pareil. Là. Je dis que c'est correct, ça va pas nécessairement dire que c'est bon. Là.
Après ça, Pat Patterson qui s'amène dans le ring pour évidemment le cheap pop de la foule locale. Pat Patterson, une légende, le premier champion intercontinental, le créateur de la Battle Royale, World Rumble. Sure, Pat Patterson, respect.
Oui.
Vient dans le ring pour parler à la crowd en français. Il dit que Montréal a toujours été sa maison, puis qu'il n'a jamais oublié de où il venait, puis c'est bien émouvant, tout le monde est content, on chante Pat, Pat, Pat. Et évidemment,
il parle anglais.
Il parle anglais, c'est le Canada, parfait. Puis, évidemment, quand il y a un babyface qui fait une promo, il y a toujours un trou de cul qui intervient. Et ce trou de cul-là était Dolph Ziggler, le gars qui se cherche depuis 2000 et plus.
Quoi? Non, pas du tout.
Et Dolph Ziggler qui s'en vient pour interrompre Pat Patterson et qui va que d'une promo assez dégueulasse, mon cher TJ.
Ben, pas dégueulasse, juste que c'était un peu trop long.
Il a essayé de faire de la comédie, parce que tu sais, on sait que c'est un stand-up comique. Là. Il a essayé de faire des petites jokes qui n'a pas
passé. Ah, ben là, c'est un peu comique à la date d'aujourd'hui parce qu'il fait des shows, mais avant ça, dans ce là il n'était pas.
Il a rodé longtemps parce que son charisme a pris du temps avant qu'il le trouve.
Pas tout le monde qui font des bons one-man shows, des fois. Hein.
Ouais, puis quand c'est pas drôle, là, surtout. Là, t'sais.
Ouais.
T'as pas le droit de téléphone, ça aide pas.
C'est comment cette soirée?
Puis, c'est ça, tu sais, il insulte Pat Patterson, puis à un moment donné, il s'engage pour être violent un peu envers Pat Patterson, puis évidemment, le champion, il hérite de lui, là, tu sais.
Donc, excusez des jokes, mais t'es vraiment...
Des jokes sur Montréal aussi, là, des jokes faciles, mettons, là.
Mais c'est plus sur l'âge de Patterson qui riait, là.
Ouais,
c'est
aussi. Un old man, là. Mais c'était dégueulasse, là, on va se le dire. Là, c'est une promo dégueulasse. Puis le champion intercontinental qui va venir à la défense de Pat Patterson, John Morrison. Ouais. Fait que Morrison et Ziggler étaient en rivalité. Je ne comprends pas pourquoi ce match-là n'était pas sur la carte. Là.
Ben, je ne sais pas pourquoi il n'était pas sur la carte, mais je sais que je me suis documenté un petit peu là-dessus. À la base, Rey Mysterio il était champion intercontinental un petit peu avant ça. Ouais. Il y avait eu un wellness policy ou je sais pas trop, quelque chose qui est arrivé, puis il a droppé la belle contre Morrison. Parce qu'à la base, à Breaking Point, c'était censé être Mysterio contre Ziggler pour la ceinture. Fait qu'ils ont fait le switch, mais ils ont fait le match finalement. C'est plus important de mettre le combat de Khan entre Kali et Kane. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que la WWE, des fois. Là. Mais bon, après ça, on a le droit à un match. C'est le match numéro 6, si je ne me trompe pas, mon cher DJ.
Ça, je peux le faire. Match numéro 6. Randy Orton contre John Cena dans un combat I Quit pour le titre WWE title en jeu détenu par Randy Orton.
Deux gars qui ne se sont pas affrontés très, très souvent dans leur carrière.
Profitez-en, ça n'arrivera pas souvent à ce match-là.
T'as-tu un résumé de ce match-là? T'avais-tu...
Ben là, non.
Là, c'est... Tu fais... Moi, je fais le play-by-play, puis toi, t'as pas de résumé.
Ouais, ben là, c'est parce qu'il n'y avait pas que tu fallait se faire le... On changeait le rôle complètement en faisant ça. Là. Mais regarde, Orton était champion, puis évidemment, dernière semaine, mais là, Cena avait après WrestleMania... je sais pas qui avait affronté WrestleMania cette année-là, Cena. Il était pas champion.
Non. Hein? C'était WrestleMania 25, ça, avant, non?
Ouais, oui. Y avait-tu lutté? Ah, c'est, non, c'était pas ce show-là qu'il y avait Randy Orton, Cena, puis Triple H dans Triple Threat?
Non, c'était juste Orton contre Triple H, je pense, non?
Possible. Bref. Ben, évidemment, Cena voulait être champion, évidemment, puis Orton l'avait. Puis je me rappelle, dans le build-up du match, il y avait un spot que j'avais bien aimé. Là, c'était Orton qui avait pris Cena en RKO avec la chaise ouverte. Là,
ouais.
Il avait mis, puis il faisait l'RKO là-dessus, c'était nice. Puis, non, évidemment, à part évidemment le fait que Cena veut la belle puis Orton est champion, ben, il n'y a pas grand-chose dans ce storyline-là. Ils vont continuer la storyline par la suite, là. C'est pas mal le premier chapitre de plusieurs, évidemment. Mais non, à part le fait que Orton, Cena veut la belle d'Orton, puis c'est pas mal ça. Puis, évidemment, c'est le match entre les deux futurs top stars de la business, là.
Le match que John Cena avait à WrestleMania 25, c'était effectivement un triple trip match pour le championnat WWE, mais c'était contre Big Show et Edge.
Edge, ouais, okay.
C'était un bon match dans mes souvenirs, par exemple, ce match-là, ce three-way.
Ben, je me rappelle du spot avec Edge et Big Show que Cena a mis sur ses épaules. Là,
ouais, c'est
few,
ça.
Là. Ça, c'était nice.
Orton va frapper le premier. Il va réussir à mettre Cena temporairement KO avec un moniteur à l'extérieur du ring, direct sa caboche.
Un moniteur de quoi? De...
Quoi?
Un moniteur de camp de vacances?
Oui, il a pris... Il a pris Gorge Rouge et il l'a frappé avec.
Gorge Rouge?
Ils ont tous des...
Jets jaunes, peut-être?
ils ont tous des noms, ces estis-là. Là.
C'est vrai.
C'est un peu louche des moniteurs de camp de vacances, là, on va se le dire.
Ouais. Camomille.
Camomille. Hey, une bonne camomille, ça serait bon. C'est ça, parce qu'il va l'assommer avec la télévision. Évidemment, Cena va toujours faire son face qui mange la volée la plupart du match. Cena va tenter de retourner dans le ring, mais Orton va y agripper la tête et va y accrocher les deux pieds dans la corde, puis il va se laisser tomber pour un DDT avec les pieds dans les cordes. Est-ce que ça va être assez pour faire abandonner John Cena? Et non!
Mais il n'est pas genre Orton avec la DDT, puis il disait à l'arbitre, demandait s'il abandonne.
Oui, puis après ça, il l'a droppé sa tête. Il a dit non, il abandonne pas. Il l'a droppé sa tête, puis après ça, il a redemandé une autre fois, puis
ouais.
Never give up, mon ami. Never give up. Fait que Orton va essayer d'y aller avec son coup de pied de commotion, le fameux coup de pied où il knock le monde, qu'il y en a qui reviennent après trois mois, d'autres le lendemain à Raw, à Shawn Michaels. Le punt. C'est Shawn Michaels hein, qui était revenu le lendemain, je pense.
Il était revenu le lendemain, c'est juste qu'il ne l'avait pas vraiment vendu. Là.
Il n'avait pas scellé, non, c'est ça.
Il avait mangé la clope, il était assis dans le coin puis il était comme ça.
C'est-tu d'épais. Cena va réussir à s'enlever, à éviter le coup, mais sans nécessairement se relever. Donc, Orton va le pourchasser. Il va le stomper deux fois la tête sur les escaliers de métal pour sonner John Cena. Donc, il y a un petit pattern, là, il attaque la tête... de John Cena, il veut vraiment le commotionner puis le mettre hors de portée. Donc, il ne veut pas le faire dire à écoute, il veut juste le faire passer out. Passer out, excusez.
Pass out.
Et un classique, la seule affaire que je me souvenais de ce show-là, c'était dans ce match-là, où que Randy Orton va sortir une paire de menottes et va attacher John Cena sur le poteau. Puis, j'ai checké là, des... Certains médias qui avaient reviewé ce show-là, puis disaient que c'était un peu un truc de religion, là, qui voulait faire un peu comme Jésus qui se fait punir sa croix, là, parce qu'il... Ben,
Ouais, parlant de croix aussi, c'est Orton, il avait pris la croix de Cena puis il l'avait mis autour de son cou aussi. Là.
Ouais, c'est vrai, hein?
Ouais, ouais. Fait je sais que, pas, ça a rapport avec ça, j'imagine.
Ouais, là, je pense que ouais, il y a du monde qui disait que c'était pas mal des signes de religion, là, qu'il voulait faire un peu yep. un...
Il a pris la croyance de l'autre, contre, il a retourné contre lui, mettons.
Ouais, puis c'était un spot aussi que, si je me trompe pas, il avait pris dans un vieux match de la ECW, là, entre Tommy Dreamer, puis je me souviens pas qui, mais quand ils ont préparé le match, c'est un spot que Tommy Dreamer, je pense qu'il était là à l'époque, sûrement, là, il y avait la ECW, fait que c'est un spot que Dreamer ouais, a donné à Orton puis Cena pour lui dire, hey, j'ai fait ça dans le temps, puis j'ai fait ça avec le poteau puis les menottes, donc... quand même cool. Bon flash, c'est pas des gars qui sont habitués à faire vraiment des matchs de ce style-là comparativement à la vieille ECW. Mm-hmm. Donc, il va menotter Cena, il va le punir avec des kendo sticks, les kendo sticks qui restaient du match entre Kelly et Kane, qui traînaient à terre. Quoi. Il n'y a personne qui a ramassé ça entre-temps. Ils n'ont pas 40 personnes qui travaillent alentour du ring, mais bon. Ça a l'air qu'ils étaient là. Ouais, c'est ça.
Ben, il fallait qu'il ait ramassé le Kelly Ring à terre backstage de Triple H et de DiBiase.
Exact. Et après ça, Cena va détacher, il va mettre la clé dans le cou, il va détacher Cena. Orton va détacher Cena, il va mettre sa clé dans le cou, il va essayer de le mettre, il va l'attacher sur l'autre coin un petit peu plus loin, il va prendre une chaise, il va essayer de frapper Cena, Orton, et il va se tasser, donc il va se péter les mains avec la chaise, et il va prendre la clé, il va se détacher pour détacher des menottes, et il va rentrer Randy Orton dans le ring. Donc tu sais, c'est beaucoup un... Ce match-là est beaucoup basé sur le personnage de Randy Orton, un peu psycho, là, qu'il essaie vraiment de détruire ses adversaires, puis il a comme une face, genre vraiment...
Il est cérébral.
Ouais, vraiment. La version préférée de TJ, en fait.
Ah oh ouais, je l'adore.
Oui, c'est ça. Donc, Cena va monter dans le ring, va dominer un peu Orton, et Orton va retenter le même spot qu'il avait fait avec la chaise, là. Il va le pogner en RKO.
Oui.
Mm-hmm. Et ça va être renversé. Il l'a tué, Reapers? Ouais, non, il l'a eu. Il a fait un RKO, puis après ça, il était attaché avec Randy Orton. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a voulu... Il s'est éloigné de Cena, mais vu qu'il était attaché, Cena a pu le ramener pour faire un STFU avec les menottes.
Ah, oh, mais c'est ça, Orton, il essaie de pogner
les clés pour s'en sortir. Puis là, c'est là que Cena en a profité pour faire le STFU
ouais.
avec
un
les menottes.
Un autre beau finish aussi.
Très, très beau finish pour faire abandonner Randy Orton. Donc, John Cena, nouveau champion. Parce que c'est Orton qui avait la ceinture au début du combat.
C'est la combienième fois qu'il avait gagné la belt, sais-tu?
C'est la cinquième fois.
OK. Five Time, il avait égalisé les records. Il avait égalisé Hogan et Bret Hart, qui avaient notamment 5 à l'époque.
Ouais, c'est pas mal le match que je me souvenais le plus de ce show-là, live. Là. Le reste du show, je m'en souvenais pas avant de réécouter ce show-là. Ouais.
Ben, moi, je trouvais que c'est un excellent combat pour vrai. Là. Il y avait des beaux spots pendant, puis aussi une très belle fin. Puis je trouve que c'est un des meilleurs écoute matchs qu'on, malheureusement, on n'entend pas vraiment parler, peut-être à cause que c'est sur un B-show. Mm-hmm. Puis aussi le fait que Cena Orton, c'est une des combinaisons les plus redondantes de l'histoire. Là. Fait que ouais. C'est sûr que ça aide pas, mais un très bon match pareil pour vrai. J'ai beaucoup aimé ça.
Ouais, c'était pas mal un des bons matchs de la soirée. Est-ce que ça sera le meilleur match à voir? Mais à voir.
Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Fait que.
On est prêts?
Allez voir ce match-là, je vous recommande pour
vrai. Ouais, ouais, vraiment, vraiment.
Match numéro 7. Pour le championnat des poids lourds World Heavyweight, CM Punk, le champion défendant, contre l'Undertaker dans un combat de soumission. Puis le build-up, je vais toujours me rappeler comment la fille a commencé entre les deux. C'était le mois d'avant à TLC. Jeff Hardy a défendu son titre contre CM Punk. Et CM Punk a gagné le combat. Puis à la fin, évidemment, il a célébré devant la ceinture. Il y avait Jeff Hardy qui était à terre. Devant lui, puis il célébrait devant lui. Puis les lumières sont fermées. Puis quand elles sont rallumées, c'était plus Jeff Hardy, c'est l'Undertaker qui l'a poigné par la gorge pour lui faire un chokeslam et un tombstone. Fait que non, c'était vraiment cool ce spot-là. Là. C'est quelque chose que je me souviens pas d'avoir vu ce spot-là move par move entre-temps avec Taker. C'est arrivé des fois qu'il est en arrière du gars ou whatever. Là. Mm-hmm. Mais de vraiment prendre la place du gars qui est à terre pour le poigner l'autre qui est en surprise, c'était vraiment nice. Puis évidemment, CM Punk l'a bien vendu. Puis non, puis le classique, là, c'est que Taker, évidemment, ben, Tout le monde n'aime pas CM Punk, fait que là, il dit ah, enfin Taker va pouvoir le mettre à sa place, puis évidemment. Tout...
Ouais.
C'était comme une foregone conclusion que Taker gagnerait, surtout ce Mission Match, là, quand est-ce que Taker taperait out, tu sais.
Ouais,
fait que c'était vraiment une affaire que le monde voulait vraiment que Punk perde la ceinture, puis qu'avec Taker, ben, tout le monde disait qu'il n'y avait aucune chance. Fait que c'est un peu ça l'histoire du combat de ce soir du championnat. C'est pas lourd.
Et c'est le Anaconda Vice contre le Hell's Gate pour les soumissions de chaque lutteur. Donc,
exactement.
C'est quand même deux belles soumissions. Là. C'est, on penserait pas nécessairement à Taker comme soumission. Quoique le Hell's Gate, il l'a de plus en plus fait avec la, puisque ça avançait dans sa carrière. Donc, ça lui a donné peut-être une autre façon de gagner des combats. C'est moins redondant que le Chokeslam et le Tombstone.
Ouais.
Donc, c'est bien le fun. Taker propulse rapidement CM Punk du haut de la troisième corde dans le ring. Donc, attaque rapidement le champion défendant. Ils m'ont travaillé beaucoup sur le coin du ring en début de match. CM Punk va même y aller d'une superplesse dans le milieu du ring. Un move toujours très impressionnant. C'est un des plus beaux moves de la lutte, là, je trouve. Il faut que ça soit bien fait. Ça peut être dangereux. Taker va rapidement reprendre le dessus. Avec son fameux, son œil de serpent, la grosse botte et la descente de la cuisse. Donc, Snake Eyes, Big Boot et Leg Drop, pour ceux qui ne parlent pas français. Ça n'a aucun rapport, t'as une continue en français.
Ouais, tu parles français depuis le début, comique.
CM Punk va renverser un choke slam avec un right kick, un coup de pied impressionnant, circulaire, en plein milieu de la tempe.
Un coup de pied prospectus.
Exact. Il va prendre Taker un peu à la légère. Il va s'amener doucement pour le compter. Et Taker va l'attraper en Hell's Gate automatiquement. Donc, est-ce que CM Punk va taper? Et oui! CM Punk tape, nouveau champion, The Undertaker.
C'est long avant qu'il se mette à genoux, là.
Ouais, c'est long. Qu'est-ce qui arrive? Ah, ben non! Il y a quelqu'un qui arrive, mon cher TJ. C'était qui?
Holla, holla!
Il y a ça un tag team match qui s'en vient, non?
Non, mais non.
Teddy Long vient annoncer que Vicky Guerrero, le GM, vient annoncer que Vicky Guerrero avait banni le Hell's Gate à l'époque. Puis ça fait-tu vraiment du sens? Il me semble que c'était vraiment loin dans l'histoire, non?
Pas tant. Non? Peut-être une couple de mois avant, peut-être.
Fait que Taker n'avait pas le droit d'utiliser le Hell's Gate. Ça avait été dans quelle stipulation, ça?
C'était pas quand je suis là contre Big Show.
Ah oui, t'as raison.
Vicky est avec Big Show, là.
Oui, Vicky est avec beaucoup de monde.
Voilà.
Ben, on peut dire ça de bien du monde, dans le fond. Hein.
C'est ça, ben oui.
Fait que Teddy Long recommence le match parce que, évidemment, le Hell's Gate a été banni. Et Punk réussit, pendant que Taker est distrait, Punk réussit à attraper Taker pour lui faire. Il avait-tu fait j'avais pas marqué, il avait-tu fait son. C'est quoi son finish déjà?
Go to sleep?
Ouais, go to sleep avant? Non, hein?
Non.
Avais-tu soigné en Anaconda Vice, hein?
Non. Ce qui est arrivé, ben oui, mais oui, puis non. Ce qui est arrivé, c'est que, en fond, après, quand ils recommencent le match, ben Taker puis l'autre se frappaient.
Ouais.
Taker, il a pogné en position de last ride.
Ouais, c'est vrai.
Punk est tombé sur ses pieds, puis après ça, il a fait un chop block, après ça, il a fait la soumission.
Anaconda Vice, et évidemment, la cloche a sonné très rapidement parce qu'un certain. Armstrong, c'est le frère du Road Dog, Brad Armstrong, c'est ça?
Scott Armstrong,
excusez. Ouais. Il est décédé?
Brian Armstrong, c'est le Road Dog.
Ouais, c'est ça, excuse. C'est lui qui est décédé, non, c'est pas lui, c'est leur père, hein, c'est ça?
Ouais, Bullet Bob.
Ouais, c'est ça. Fait qu'il fait sonner la cloche rapidement pour, évidemment, faire gagner CM Punk, comme si Undertaker avait abandonné, et comme si c'était pas nécessaire, un Montreal Screwjob.
C'est le troisième en trois shows. Hein.
Troisième en trois shows, puis je suis bien content que Elimination Chamber n'ait pas fait ça.
Non, mais ça ne m'aurait pas étonné.
Non, je ne sais pas là, j'ai pas de même.
Non.
Fait qu'un screw job pour terminer le show avec CM Punk qui bat Undertaker et conserve son titre sur les huées de la foule qui était écœuré de se faire prendre pour des épées. Après tant d'années, maintenant, on peut passer à autre chose, je crois.
Ouais. Non, un match correct, là. Puis ça va prendre quoi, 4 ans avec un bon match entre les deux? Vraiment un bon match entre les deux à WrestleMania.
Ouais. Non.
Et sinon, et puis aussi, il y a encore un screw job, là. Maintenant, c'est fatigant. Là.
Ouais, ça gosse. On peut passer à autre chose. On est capable de faire d'autres choses que le screw job, là, je pense que. Mais ouais. C'est Bin sans qu'il bouquait. Fait que...
Non. Fuck. Dark times.
Ouais. Sinon, ben, c'est ça. C'est la fin du show Breaking Point. Je vais être bien transparent. J'ai trouvé ça très boring à regarder. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas trippé non plus sur place, à part peut-être DX, là, puis un peu d'Orton, là, que, puisqu'on on était comme vis-à-vis les menottes là, quand ils se faisaient menotter, ah ouais. Mais non, j'ai vraiment pas trippé. Puis même à l'époque, quand j'étais sorti de là, un des rares shows live que j'ai pas tant. J'ai déjà trippé plus dans des rares shows que ce show-là.
OK.
Ouais.
Fait que voilà. Fait que Breaking Point. Maintenant, avant, on est rendu au match, au worst match et à la note.
Le worst.
Ben, le worst, on sait c'est quoi. C'est Kane contre Cali.
Parfait. C'est fait. C'est cané.
On l'a, ouais, c'est cané. On l'a bien calé.
Le meilleur, je suis pas sûr, par exemple.
On
a le même.
En le disant, je suis pas sûr, mais je vais assumer ce que j'ai marqué.
Okay.
Tu veux commencer ou je vais?
Vas-y.
OK. Je donne à mon match of the night pour Breaking Point 2009. Je donne ça à roulement de tambour. DX contre Legacy!
OK. OK.
Mais c'était très proche. Avec ton match of the night, pas mal sûr.
Mon match of the night, je donne à DX contre Legacy!
Ah, je pensais que c'était pour dire Punk contre Cena.
Orton, c'est
notre deuxième. C'est ça mon deuxième choix, c'était proche. Là.
Ah, non, c'est DX contre Rose. Okay. Ouais.
OK.
Ouais.
La note du pay-per-view maintenant.
Tu le dis en premier? Je donne.
C'est très pesant si tu l'écoutes en audio en ce moment.
Je donne la note de 6 sur 10 à Breaking Point.
C'est pas si pire que ça. Je donne à Breaking Point la note de 6.5 sur 10.
On est proche quand même. On est toujours proche.
Puis à mesure de comparatif, j'avais donné à Star Series 97 6 sur 10. Fait que tu vois, j'ai
moi, j'avais donné combien?
7. Je pense que j'avais donné la même affaire, je pense.
7, je suis pas mal sûr.
Tu peux vérifier pendant que tu parles, si tu veux.
Ouais, fait que Breaking Point, pour vrai, si vous êtes curieux, puis vous voulez voir les shows qui se sont produits à Montréal, écoutez-les, mais c'est pas... ouais, c'est ça. C'est pas un show qu'on recommande, je pense. C'est pas un must-see. Mais il y a quand même des trucs intéressants. DX contre Legacy, je pense que c'est bon de regarder ce match-là, puis les trois matchs qui ont fait un contre l'autre, c'était bon. Là. C'est des bonnes promos, puis... Mais sinon, en tant que tel, non, vraiment rien à se mettre sous la dent dans ce show-là. Puis des matchs de championnat décevants. Orton, Cena, c'était correct sans plus. Là. J'avais donné 6?
J'avais donné 6.
OK, fait que je donne la même note. Mais Survivor Series 97 est meilleur pareil. Un petit peu. 6.1.
le tiebreaker, mettons.
C'est ouais, correct. C'est ça. Fait que non, je vous le conseille pas. Puis, c'est ça. Ce qui fait le tour de nos shows de Montréal. Avec le worst show, d'après moi. Puis TJ, c'est son deuxième worst show.
Ouais. C'est serré. Ça.
C'est serré. Donc, ouais. C'est dans le rétroviseur, Montréal.
Exactement. Mais là, moi, là, je suis pas pour toi, là. Mais il me semble que j'aimerais ça, un petit quiz. En as-tu un proche?
Non.
Moi, ça, non.
Mais tu me dis ça de même, là.
Tu m'as dit que tu l'avais fait plein la dernière fois.
Je les ai tous passés.
T'as pas ta fin de ton jeu, là, que j'avais des recushions dessus?
J'ai rien, man. Je suis désolé. Tu me dis ça. Je viens de passer la worst week of my life. Puis, mais pas
moi. Ouais, j'avoue. Ouais, mais je pensais que tu l'avais fait. Tu m'as dit que tu l'avais préparé la dernière fois. Je pensais que tu en avais encore. C'est pour ça que j'ai dit ça.
Je suis désolé.
Pas rapport à ta worst week of your life. Je savais pas. Pour ça que j'ai dit ça.
Mais regarde. La worst week of my life. C'est pas vrai.
Moi, ça. Oh, j'ai vu quoi, moi?
Quoi?
Attends.
Une autre affaire de ma page Charlie, là, c'est ça?
Ouais, non, c'est parce que les W, je viens de voir qu'ils font un Face of the Revolution ladder match dans la main semaine prochaine.
S'en fout de AEW.
Non, tout est ferme ta boîte quand tu dis ça. Là. Tu penses pas vraiment à Noé.
Fait que ce qui s'en vient au podcast, mon cher TJ, ben là, Breaking Point est terminé. On rentre officiellement dans la WrestleMania season avec WrestleMania 7, WrestleMania 35, une biographie des Nasty Boys et. Le choix du public, vous allez voter entre WrestleMania 20, WrestleMania 13 ou WrestleMania 9, Caesar's Palace.
Caesar's Parking Lot.
Ouais. Fait que, bien out.
Ouais. Mais la semaine prochaine, c'est Revolution. On parle avec Alex qui va être ici.
Prédiction.
Pour pas oublié. Ouais, fait que un mois chargé, évidemment. Ben, quand c'est WrestleMania season, tu t'en chargé, oui.
Il n'y a pas vraiment de semaine pas chargée en ce moment, je te dirais. Là. On aime ouais, ça, mon. On a enregistré 14 podcasts en deux jours. Là.
On récolte ce que l'on sème, hein, parfois.
On sème beaucoup.
Ça n'est pas la même affaire, mais c'est pas grave. Yes, sir!
Parfait, ben, merci beaucoup.
Yo, les gens!
C'était bien agréable. Fait qu'oubliez pas, nous suivre partout, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec, YouTube, Patreon, 3$, 5$. Encouragez-nous, on a du fun, on vous aime. Parfait.
Yes, sir!
Et je voudrais remercier tous les gens de la Jamaïque, de l'Europe, de l'Espagne, partout qui nous écoute, en audio Espagne. Surtout. On vous aime, partout dans le monde.
Ouais. Fait que, semaine prochaine, on veut vous voir pour le AW Revolution Preview avec Alex, et pour tout le reste du mois aussi, évidemment. Mm-hmm. Fait que, merci beaucoup, Marco, du doublé, du, ouais. Fond, du de Joint Operation, du review de Breaking Point 2009. Parce que tout ça, j'aurais sûrement trouvé ça trop plate.
Juste avant, par exemple, oui, on a Alex pour les prédictions. Je veux juste dire que pendant une semaine ou deux, il n'y a pas d'entrevue avec des lutteurs québécois. Là, on en a donné beaucoup la dernière semaine. Fait qu'il y a comme un petit break de 2-3 semaines pour ça. Mais
la prochaine, je pense, ça va être de quoi de fun, je pense.
Oui, mais il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent.
On va essayer d'avoir un tag team pour l'entrevue. On va essayer.
OK, parfait.
Petit teaser de même pour la fun. Fait que merci tout le monde. Bonne semaine. On se voit la semaine prochaine pour un autre En deux chaises de métal. Mais en attendant, n'oubliez pas, soyez gentils, soyez bons, soyez aimables, mais surtout, allez-y!